France Culture.
En quoi cette année est-elle cruciale pour le climat et la planète? Dans le cadre de notre partenariat avec le service Planète Science du journal Le Monde, nous vous proposons régulièrement des émissions spéciales décryptage. Et en ce début d'année, il nous a paru primordial de nous projeter dans cette année 2025 au regard des enjeux climatiques et environnementaux et au regard aussi des grands rendez-vous internationaux qui vont rythmer l'actualité au fil des mois. Avec nous pour cet exercice bilan et perspective, trois invités. Valérie Masson-Delmotte, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice de recherche au CEA, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, climatologue au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement à Paris-Saclay. Et je rappelle que vous avez été coprésidente de 2015 à 2023 du groupe de travail sur les bases physiques du GIEC. Alors le GIEC, vous y avez aussi œuvré depuis 2007, il faut le préciser. Et vous êtes auteur notamment du livre « Face au changement climatique », un livre paru au CNRS Éditions. Avec nous également Sébastien Treyer, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général de l'IDRI. Alors l'IDRI, on peut rappeler ce que c'est?
C'est l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales.
Et vous êtes aussi président du Comité Scientifique et Technique du Fonds Français pour l'Environnement Mondial. On dit le FFME, c'est ça?
On ne sait jamais trop comment dire. On peut le bégayer. On peut dire le FFM, par exemple.
D'accord. Et à nos côtés également, Audrey Garrig, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste au service Planète Science du journal Le Monde et spécialiste des questions climatiques, ça on
c'est
peut
ça.
Le dire.
Voilà. Voilà.
Et on renvoie bien évidemment sur vos articles, et notamment un des derniers intitulé « L'année 2025 sera cruciale pour le climat dans un monde plus que jamais incertain et turbulent ». Bonne année à toutes et à tous et bienvenue dans le magazine de l'environnement de France Culture, en direct, en partenariat avec le journal Le Monde, émission préparée par Corinne Amar, avec la collaboration de Lily Cornaer, Vanessa Chan, les équipes de documentation de Radio France. Émission réalisée par Alexandra Malka avec à la technique d'Ali Yaha.
Des rafales de vent à plus de 220 km/h qui emportent les toits et font trembler les lignes électriques. À Mayotte, de nombreuses habitations sont précaires, souvent des cases faites de tôles qui n'ont pas résisté au cyclone.
Mes amis, j'ai plus de maison. J'ai plus de maison, Sido a tout pris.
Dans la ville elle-même, ces maisons éventrées sont devenues le symbole des terribles inondations qui ont frappé l'Espagne.
Ça s'est joué à 5 minutes à peine.
Ça aurait pu être bien pire ici. J'ai eu peur. J'ai cru que j'allais mourir. Il y avait plus d'un mètre d'eau.
Des températures records et une vague de chaleur sans précédent.
Croyez-moi, quand vous êtes ici et qu'on vous dit qu'il fait 50 degrés, on sent vraiment qu'il fait 50 degrés.
Dans la vallée de la mort, le thermomètre a dépassé les 53 degrés.
Honnêtement, c'est vraiment choquant. Je ne sais pas comment on peut survivre ici.
Eh oui, des catastrophes de plus en plus fréquentes. L'année 2024 marquée notamment par le cyclone Chido, les inondations meurtrières à Valence, d'autres dans le sud du Brésil, le Pas-de-Calais, la Seine-et-Marne, les canicules en Inde, au Pakistan, au Mexique, le dôme de chaleur en Californie. N'en jetez plus, on peut dire. Mais c'est vrai que c'est important de rappeler parce que cette année 2024, c'est la plus chaude jamais enregistrée. Encore une, certains doivent se dire encore une, mais d'année en année, c'est vrai qu'on franchit des étapes. Avec Audrey Garrig, pour la première fois, le dépassement de 1,5 degrés, le seuil à ne pas dépasser, selon l'accord de Paris d'ailleurs.
C'est ça, donc c'est une année qui est très marquante de ce point de vue-là. On voit que le changement climatique s'aggrave. Et il faut quand même préciser que même si on a atteint 1,5 degré de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas respecté l'accord de Paris, qui a entendu en fait sur une période de temps beaucoup plus longue. On pense plutôt à une vingtaine d'années. Donc c'est plutôt au cours de la prochaine décennie qu'on devrait dépasser ce seuil de manière durable. Là, c'est une année au-delà d'un 1,5 degré. Et peut-être qu'après l'année prochaine, on peut espérer que ce sera un petit peu moins important parce que donc cette l'année 2024, on a eu la conjonction à la fois des émissions de gaz à effet de serre qui ne cessent d'augmenter et qui sont dues principalement à la combustion d'énergies fossiles, donc le charbon, le pétrole et le gaz, et à la déforestation. Et tout ça, c'est additionné aussi avec El Niño, qui est là pour le coup un phénomène naturel et qui a encore augmenté le thermomètre. D'accord. Et donc, on voit qu'avec tout ça, on a eu une aggravation des phénomènes climatiques extrêmes qui sont plus intenses le plus souvent et parfois plus fréquents pour certains. Mmh. Et donc, énormément de pertes de vie, de pertes de dommages matériels, énormément de souffrances. Et c'est finalement l'horizon vers lequel on se dirige, malheureusement, puisqu'on est toujours en train d'émettre plus de gaz à effet de serre. On n'a pas encore atteint un maximum dans les émissions et ensuite une décrue qui pourrait permettre d'entrevoir un réchauffement qui pourrait se stabiliser.
Valérie Masson-Delmotte, une inéluctable marche, c'est ça, avec ce réchauffement climatique. On peut parler de l'inéluctable aujourd'hui, avec aussi, il faut le rappeler, des limites planétaires atteintes et même dépassées.
Mais la chose qui est frappante, c'est qu'on a la superposition entre l'accumulation de chaleur qui est due aux conséquences des émissions de gaz à effet de serre, des activités humaines, et puis la variabilité climatique, l'événement El Niño 2023-2024, qui fait atteindre de nouveaux records. Et puis ce cycle de l'eau plus intense, plus variable, dans un climat plus chaud, qui interagit avec des vulnérabilités terribles. Ça a été le cas à Mayotte, en fait. C'est emblématique en fait de cet enjeu d'être capable de réduire ces vulnérabilités, donc pour les personnes dans les contextes les plus fragiles, mais aussi pour les infrastructures critiques. C'est-à-dire que lorsqu'on a un événement extrême qui touche aux capacités de communication, de production d'électricité, d'approvisionnement en eau, on est tout de suite dans un degré de sévérité qui touche à tous les aspects qui permettent de vivre décemment. Mmh. On a aussi en fait une augmentation des dégradations environnementales, puisque les vagues de chaleur marine ont entraîné un blanchissement de coraux à nouveau. Ah oui. Et puis on a également la sécheresse par exemple en Guyane ou en Amérique du Sud, qui a aussi entraîné des effets néfastes pour les forêts.
Effectivement, on aura l'occasion de nous intéresser plus avant sur aussi ces questions environnementales, parce que bien évidemment, c'est corrélé, réchauffement climatique et effet sur l'environnement, la biodiversité et le vivant. Sébastien Treyer, une réaction peut-être, et puis on peut se dire que tout cela, cette année encore la plus chaude, ça intervient dans un contexte économique, politique, géopolitique qui n'arrange rien, qui vient compliquer, on peut dire même les actions publiques, et voire sacrifier, dites-moi si j'en dis trop ou si c'est trop fort, mais est-ce qu'on peut dire que le climat risque d'être sacrifié en le reléguant au deuxième, troisième, quatrième plan peut-être d'urgence ?
En fait, je pense que la question des impacts, des chocs climatiques, elle va pas être reléguée en arrière. Et pour beaucoup de pays du Sud, on voit maintenant, c'était le cas pour le Pakistan déjà il y a plusieurs années, à quel point les chocs climatiques sont des chocs systémiques pour l'économie d'un pays. C'est ça qui avait mené dans la discussion climatique à parler des pertes et dommages, oui, comme un point absolument important, c'est-à-dire les dommages déjà actuels qu'on peut attribuer au changement climatique et qui sont des chocs tellement structurels pour l'économie des pays et pour les populations vulnérables et les infrastructures critiques dont parlait Valérie Masson-Delmotte. Et donc ça, ces sujets-là vont rester à l'agenda, mais pas pour autant, c'est pas pour autant qu'on va avoir la capacité à mettre en priorité la sortie des énergies fossiles, et ça c'est un sujet qui est extrêmement, dont on pourra reparler, mais je pense que néanmoins on va pas cesser d'avoir un certain nombre de pays du Sud mettant à l'agenda la question de leurs besoins absolument massifs pour leur développement économique, parce que il a été stoppé par la crise du Covid, il a été stoppé par les conséquences de la guerre en Ukraine, et il est stoppé par des catastrophes climatiques. Et donc ça, c'est un point, à mon avis, de justice internationale qui est un des enjeux géopolitiques du moment, en dehors du fait qu'il y a aussi des rivalités et des conflits entre les grandes puissances économiques et militaires.
Mais on peut s'intéresser à cette question de justice climatique et sociale, justement. Qui veut réagir ? Valérie Masson-Delmotte, peut-être ?
Oui, tout à fait, et d'autant plus que avec plusieurs scientifiques qui ont contribué au sixième cycle du GIEC, nous avons été invités à interagir avec les juges de la Cour internationale de justice, qui a été saisie pour un avis consultatif par rapport aux obligations des États vis-à-vis du changement climatique, des dommages en fait, pour le système climatique, mais aussi pour les personnes, les pays dans les contextes les plus vulnérables et dans les droits humains fondamentaux. Et donc, j'ai suivi avec attention les positions des différents pays. Et je rappelle en fait que cette demande d'avis, elle a été portée au départ par des étudiants en droit du Vanuatu, une petite île du Pacifique, via l'Assemblée générale de l'ONU et, si j'ai bien compris, à l'unanimité de l'Assemblée générale de l'ONU. Donc cette question-là, en fait, on a vu lors de ces témoignages écrits et de ces auditions de représentants de différents pays à quel point c'est un enjeu majeur dans différents contextes.
Et on peut rappeler le Vanuatu qui a les pieds dans l'eau et qui fait partie de ces zones insulaires ou littorales qui subissent de plein fouet l'augmentation du niveau de l'océan.
Oui, très exposé, donc actuellement victime également d'un séisme, mais très exposé directement et indirectement aux conséquences du changement climatique. Pour tous les territoires insulaires, l'isolement, en fait, rend la gestion de crise plus difficile, comme à Mayotte. Et puis, donc, il y a une exposition à des cyclones tropicaux dont la proportion les plus intenses augmente dans un climat qui se réchauffe. La montée du niveau de la mer, une dépendance des activités très fortes aussi à la pêche, à l'état des coraux et donc aux effets indirects du changement climatique via la dégradation des ressources ou des écosystèmes.
Alors pour mesurer ce qui nous attend, je vous propose peut-être de tirer un rapide bilan des engagements pris lors des dernières grandes COP, 28, 29, et leur respect. Ce qui ressort, ou plus massivement, c'est plutôt un manque d'ambition en matière de financement et de politique publique efficace. Remarquez, ça ressort lors des COP, mais ça ressort aussi en matière d'action publique ou politique dans différents pays, et comme la France ou à l'échelle de l'Europe notamment, où on voit bien que la question de l'économie verte ou des engagements verts, le pacte vert recule aussi. Donc il y a quand même ce contexte-là où on voit bien qu'il n'est pas si facile de faire tenir les engagements. Audrey Garrick.
Oui, il y a clairement une dichotomie de plus en plus importante entre l'urgence climatique et les discours de tous les dirigeants qui vont dans le sens d'une action en faveur du climat et la réalité des actions qui sont complètement insuffisantes. Et d'ailleurs, il y a deux écarts, c'est à la fois les objectifs qu'on se fixe pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et aussi pour lutter contre l'extinction de la biodiversité qui sont insuffisants par rapport au but final et aussi la réalité des actions qui est insuffisante pour tenir les promesses des pays. Donc il y a un double écart. Donc on voit bien que les pays ont une peu tendance à du mal à avancer, si ce n'est parfois reculer. Alors en France, on peut se dire que les émissions de gaz à effet de serre baissent, mais elles ont un petit peu ralenti sur le dernier trimestre et on pense que l'année 2024 ce sera plus la baisse sera moins importante que prévu. Est-ce qu'on espérait ? Il y a d'autres pays aussi où il y a des risque de recul. À chaque fois, ça se heurte au contexte d'austérité budgétaire et des opinions publiques qui sont plus forcément autant peut-être pas sensibles à la transition,
mais compréhensibles sur les efforts à faire. Quoi.
Et une montée du climato-scepticisme et des populismes qui freinent dans les opinions occidentales, en tout cas en Europe et aux États-Unis. L'avancée de la lutte contre le changement climatique. Donc tous ces pays ont du mal à progresser et c'est vrai que ça enraye un petit peu l'action globale et ça peut aussi décourager les pays du Sud d'agir plus puisque c'est quand même les pays développés qui sont les premiers responsables du changement climatique et du réchauffement en ayant pendant des décennies depuis la révolution industrielle brûlé des énergies fossiles pour leur croissance. Donc c'est à eux que revient le primat de l'action et pour l'instant on voit que les efforts sont là, mais ne sont pas suffisants. En tout cas, on ne va clairement pas assez vite.
Sébastien Treillère, sur ces questions-là, alors on peut aussi dire ce qui se profile dans l'année 2025 et assez rapidement, c'est une sortie des États-Unis de l'accord de Paris et qui pourrait peut-être avoir d'autres effets en cascade ou pas. Il faut rajouter ça dans l'escarcelle quand même.
Oui, tout à fait. Je vais me faire un peu le défenseur de l'accord de Paris et de son bilan en préparant cette année du 10e anniversaire de c'est cet ça. Accord. Mmh. C'est-à-dire que je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Audrey Garrigue. Donc, c'est pas une objection, c'est plutôt essayer de se dire aussi qu'est-ce qui a quand même évolué, qu'est-ce qui a marché dans ces engagements. Il y a un grand nombre de pays qui se sont déclarés comme voulant atteindre la neutralité carbone dans la deuxième moitié du siècle. Alors, ça fait partie des engagements qui, là, sont suffisants, mais qui manquent de mise en œuvre. Mais c'est quand même pas du tout anodin que 82% des émissions de la planète sont dans des pays couverts par cet engagement de transformation très profonde de leur économie à la moitié du siècle. Ça veut dire qu'il y a des forces politiques dans ces pays qui ont été d'accord de valider ça.
Et pour l'instant, ce sont des engagements sur le papier.
Sur le papier. Mais je tiens quand même à dire que c'était pas gagné en 2015.
D'accord.
Ça veut dire qu'on couvre non seulement les pays occidentaux, disons les pays industrialisés avant la signature de la Convention climat en 1992-94, mais aussi des nouveaux pays émergents qui sont d'accord d'aller vers la neutralité carbone. Donc il y a quand même ce moment-là qui a été gagné. Et en 2019, il y a 5 ans, sur la première séquence où les pays ont remis sur la table des nouvelles contributions déterminées à l'échelle nationale, leur plan climat, on avait eu une dynamique positive où le pacte vert européen avait été suivi d'un engagement chinois, d'un engagement sud-coréen, japonais, etc. Et donc là, cette année, on est plutôt dans le moment où, en fait, cette dynamique d'émulation positive ne marche pas ou va arriver trop tard. Enfin, je ne veux pas faire de la mauvaise prospective sur ce qui va arriver, mais je voulais juste souligner que donc il y a eu des choses qui ont marché. Et dans les autres éléments qui me semblent importants, c'est que ce n'est pas la première fois qu'on a Trump à la présidence des États-Unis et qu'il sort de l'accord de Paris. Et l'accord de Paris a résisté parce qu'en fait, il mobilise aussi d'autres acteurs.
Ou que même avant
acteurs.
Trump, les États-Unis sont déjà sortis plusieurs fois de différents accords, voilà, etc. Voilà. Et donc, n'ont pas été très vertueux.
Et il y a une forme de résilience de cette dynamique collective, potentiellement, mais ça repose beaucoup sur ce que va faire la Chine. Et c'est peut-être ça, on pourra y revenir, hein, mais il y a vraiment un élément important. Et parmi les éléments, la Chine a quand même beaucoup changé par rapport à ce qu'elle était encore il y a 5 ans ou il y a 10 ans en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Le déploiement des technologies décarbonées en matière de véhicules électriques et de renouvelables est absolument massif et plus rapide que ce qu'on avait imaginé. Donc il y a quand même des dynamiques en cours sur lesquelles il faut s'appuyer. Sinon, on va être complètement désespéré et je pense qu'on ne saura pas non plus où est-ce qu'il faut agir pour soutenir les dynamiques positives. Quoi.
Audrey Garrigue.
Oui, clairement, on est sur une tendance qui est meilleure qu'en 2015. À l'époque, on se dirigeait vers un réchauffement climatique plutôt de 4 degrés à la fin du siècle. Maintenant, c'est 3 degrés, donc il y a une amélioration. Après, ce qui est frappant, c'est de voir que même cette amélioration, elle est complètement insuffisante par rapport à l'urgence climatique qui, elle, s'aggrave beaucoup plus vite. Et donc, avec toutes ces multiplications de catastrophes, d'événements qui ont lieu maintenant partout dans le monde, même en même temps, de manière simultanée, de manière composée, en aggravant les effets, on voit qu'il faudrait accélérer encore plus.
Là, il y a un emballement qui se fait aussi.
Un emballement risque sur beaucoup d'éléments. On voit qu'on n'est pas dans la bonne dynamique et je trouve aussi que le contexte géopolitique est beaucoup plus complexe qu'il y a 5 ans, quand effectivement tous les États ont réussi à s'entraîner de manière vertueuse. Là, cette fois, on a toujours les guerres à Gaza en Ukraine, on a l'austérité budgétaire, les guerres commerciales, donc le climato-scepticisme qui a beaucoup progressé, et tout ça fait que on peut douter que les pays sauront résister autant qu'ils l'ont fait la dernière fois que Trump a été élu et sorti de l'accord de Paris. On n'attend pas forcément de défection d'autres pays, puisque ce n'est pas arrivé la dernière fois, et donc on peut penser que ce sera la même chose cette fois-ci. Mais on peut craindre que certains pays ne se cachent derrière les États-Unis pour moins avancer, pour mettre sur la table des plans qui soient moins ambitieux. Et cette année, en fait, elle est cruciale parce qu'on attend des nouveaux objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui doivent être plus ambitieux que les précédents. Et pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de pays qui les ont mis sur la table. Et tout le monde est un peu dans l'attentisme. On attend de voir comment ça va se passer avec l'investiture de Donald Trump le 20 janvier et dans les mois qui vont suivre. On attend de voir comment les relations commerciales, les conflits commerciaux vont évoluer. Et donc, que ce soit la Chine, l'Union européenne ou tous les autres principaux pollueurs ne sont pas encore du tout prêts à proposer, soumettre à l'ONU leur plan. Or, il faut pas attendre le dernier moment et la COP30 au Brésil pour le faire. Si on veut avoir un effet d'entraînement, il faut que les plans soient soumis dès février, comme c'est prévu par l'accord de Paris.
Je crois que les États-Unis, le Brésil, les Émirats arabes ont déposé des engagements qui ont été jugés insuffisants. Et le Royaume-Uni lui prévoit de réduire de 80% ses émissions de gaz à effet de serre. En tout cas, si on regarde la géopolitique, on peut se dire que l'Europe n'est plus non plus le chevalier vert qu'elle a été, et que certains pays justement joue plutôt la carte de enfin en défaveur de la transition verte. Valérie Masson-Delmotte, on voit bien qu'il y a dans toutes ces négociations, hein, des pays aussi et des États qui tentent d'affaiblir la formulation des rapports scientifiques, de la même façon que ce sont souvent ces mêmes États qui ont tenté d'affaiblir les rapports du GIEC. On parlait des 10 ans de l'accord de Paris, hein, que l'on va fêter en 2025. Mais comment vous voyez les choses, vous, parce que vous avez... Concrètement, lors du travail que vous avez mené au sein du GIEC, vous avez vraiment vécu ces pressions d'État pour affaiblir les décisions politiques aussi.
Alors, donc moi, ce que j'ai vu, c'est deux choses. C'est à la fois donc le rôle des représentants, des diplomates, hein, qui représentent les différents pays dans le cadre de la préparation et l'approbation des rapports du GIEC. Et autant sur la partie physique du climat, qui est celle dans laquelle j'étais impliquée, on est sujet à peu en fait, hein, de pression de ce type-là. Autant sur les enjeux d'évaluation des vulnérabilités ou sur les enjeux d'atténuation, on touche dans le dur en fait, hein, des enjeux propres à chaque pays, des tensions géopolitiques. Elles rejaillissent aussi sur l'approbation de rapports scientifiques. Et donc, pour faire simple, hein, tout ce qui relève des énergies fossiles, je dirais hors charbon, c'est-à-dire pétrole, gaz, eh bien les pays dont l'économie dépend de la production et de l'exportation de ces énergies fossiles font peser lourdement leur influence pour, dans les formulations des rapports scientifiques, formuler autrement l'impératif de sortie des énergies fossiles. Donc, ils renforcent les aspects liés à la possibilité de captage et stockage, abattre les émissions tout en utilisant les énergies fossiles. L'autre secteur qui est très frappant et qui est influent à travers les pays dont l'activité économique dans ce secteur est forte, ce sont un certain nombre d'activités, notamment d'élevage, l'industrie de la viande, par exemple en Amérique du Sud, où de la même manière, les conclusions scientifiques ne pouvaient être acceptables qu'à condition d'être formulées d'une manière suffisamment floue pour être moins claire que avoir une consommation davantage orientée pour l'alimentation vers les protéines végétales que les protéines animales. Et ce qui est frappant aussi, c'est que autant à la COP28, il y a eu l'esquisse, hein, de ce qu'est la traduction, on va dire, politique de la transition énergétique mondiale nécessaire, autant sur le système alimentaire qui représente un tiers, hein, des émissions de gaz à effet de serre, qui est très exposé aux conséquences du changement climatique avec des enjeux de sécurité alimentaire, on voit que ça peine à être pris à bras le corps. Et je voulais également revenir sur, finalement, pour moi, la dernière COP qui avait été très difficile, c'est celle de Copenhague en 2009. Donc là, on est à peu près 15 ans après, dans des contextes différents. Et ce qui me frappe, en fait, 15 ans après, c'est que on avait sous-estimé deux choses. Sur la base des connaissances, en fait, scientifiques, techniques de l'époque, en 2009, on avait sous-estimé à quel point il y aurait une aggravation rapide d'impact sévère du changement climatique pour les sociétés humaines dans tous les pays, mais aussi pour les écosystèmes. Donc l'aggravation des impacts qu'on observe maintenant, à l'époque, elle avait été sous-estimée. On pensait que les enjeux d'adaptation, c'était un enjeu pour les pays les plus vulnérables. Non, cela concerne tous les pays, la France en métropole, comme dans les Outre-mer et ailleurs. Et puis on avait sous-estimé à l'époque, hein, fin 2009, les progrès rapides sur certaines technologies. Par exemple, la baisse du coût de production de l'électricité solaire, elle n'avait pas été anticipée à hauteur de ce que c'est devenu aujourd'hui.
D'accord.
Et donc, à l'époque, l'atténuation, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, c'était plutôt perçu comme la responsabilité des pays riches qui se sont développés plus tôt. Et maintenant, en fait, le cadre de l'accord de Paris, les enjeux d'aujourd'hui, c'est aussi comment faire en sorte de rendre accessible le plus rapidement les technologies bas carbone, et avec cet effort d'atténuation qui est aussi nécessaire pour les pays émergents, pour les pays en développement. Et donc c'est pour cela qu'on bloque sur ces enjeux de financement. dans un contexte d'inflation, de priorité mise dans ce contexte de conflit et d'inflation sur la sécurité énergétique et de dépenses militaires qui ont fortement augmenté et qui sapent aussi les capacités des gouvernements à investir sur ces aspects, on va dire, de prévention, hein, puisque c'est ce dont il s'agit. La réduction des émissions de gaz à effet de serre ou les investissements dans l'adaptation, c'est une prévention par rapport à des risques de crise croissants.
Ah oui. Sébastien Treillière.
Non, je voulais juste revenir exactement sur cette question du financement, puisque vous nous invitiez aussi, Aurélie, à parler des résultats de la COP29.
Oui.
Et sur cette question du financement, moi, ce qui me frappe, c'est que on a parmi les forces de résistance maintenant un certain nombre de pays du Sud qui disent, y compris l'Inde, très, très, très sonore hein, sur ce sujet-là, qui disent en fait l'accord de Paris, le deal qu'on avait passé est mort, c'est fini. Vous n'avez pas fait les efforts d'atténuation que vous avez promis, vous, les pays du Nord, et par ailleurs, vous n'avez pas avancé les promesses financières, elles ne sont pas à la hauteur de ce dont on a
besoin.
Donc
l'esprit de Paris ne va peut-être pas régner à la COP30 à Belém au Brésil. Hein.
J'espère que le Brésil saura le faire régner quand même. Et il y a en partie dans la position indienne aussi une logique de posture, que la diplomatie c'est aussi beaucoup de posture. Hein. Ce que je voulais souligner, c'est qu'il y a un risque majeur, c'est qu'on donne l'impression qu'on demande aux pays du Sud de faire des efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre que nous, pays développés, ne savons pas faire, et qu'on irait les compenser par de l'argent. Alors que la situation est exactement celle que décrit Valérie Masson-Delmotte. Les pays qui doivent faire des réductions d'émissions de gaz à effet de serre, c'est les grands émergents et les pays industrialisés. Et par ailleurs, on a un certain nombre de pays vulnérables pour qui il y a des besoins d'investissement massifs. Et c'est des pays qui n'ont plus accès à la finance par l'accumulation des crises. Valérie a mentionné l'inflation, on peut mentionner les effets du Covid, la réaugmentation des taux d'intérêt dans les pays du Nord qui fait que c'est plus attractif pour les investisseurs d'investir dans les pays du Nord. Et donc cette question du financement des économies du Sud est absolument majeure. Et à Bakou, à la COP29, on a trouvé une formule qui était la ligne la plus fine de rencontre entre ce que les débats politiques dans les pays du Nord étaient capables de mettre sur la table, c'est-à-dire les 300 milliards par an en 2035, et des besoins des pays du Sud qui étaient plutôt de l'ordre de 600 milliards à 1300 milliards dans les fourchis qui étaient évoqués. Et en fait, on a repoussé le problème parce qu'on a dit il va falloir trouver le lien entre les 300 milliards et les 1300 milliards entre Bakou et Belém. Et ça, pour moi, ça risque d'être un problème vraiment majeur qu'on ne résoudra pas dans le cadre de la Convention sur le changement climatique, parce que ça a ressorti d'autres niveaux de mobilisation financière, la mobilisation de la Banque mondiale, du FMI, qui sont discutés ailleurs, qui avancent petit à petit. Le Brésil, avec son G20, a fait des choses assez intéressantes l'année dernière. Un G20 qui est jamais facile, hein, parce qu'on y a aussi l'Arabie Saoudite, la Russie, etc. Et les États-Unis qui sont pas toujours faciles non plus à manœuvrer. Ouais. Et ils ont réussi à faire avancer, à dégager des centaines de milliards par le système des banques multilatérales de
malgré
développement.
Malgré les oppositions, hein, en tout cas.
Malgré l'opposition. Mais c'est pas pour autant que dans la Convention sur le climat, les pays du Sud diront « ça nous suffit
». Oui.
Parce qu'ils veulent le financement ad hoc dans ce cadre-là.
Et on sent cette tension qui monte entre pays du Nord et pays du Sud et la confiance qui s'érode. Et il faut préciser aussi que lors de la COP29 à Bakou, eh bien, il n'y a pas eu de renouvellement d'engagement d'une sortie du charbon, pétrole, gaz et d'une transition hors énergie fossile, ce qui a eu de quoi inquiéter certains. Valérie Masson-Delmotte parlait aussi de la question environnementale. Eh bien, c'est vrai que sur ces questions-là, il y a une diplomatie qui est en jeu et qui va jouer son rôle aussi en 2025. Également donc sur ces sujets liés à l'environnement et à la biodiversité, en lien, il faut le rappeler, avec le réchauffement climatique et en lien avec la prédation humaine.
À l'échelle de la planète, c'est un chiffre proprement ahurissant. Les populations de vertébrés sauvages ont diminué de 69% en 50 ans. Selon les régions, les bilans sont contrastés. Moins 18% en Europe et Asie centrale, moins 20% en Amérique du Nord, moins 55% en Asie et Pacifique, moins 66% en Afrique et jusqu'à moins 94% en Amérique latine et Caraïbes. Parmi les 5200 espèces recensées par le WWF, la tortue lutte de Guyane, elle a quasiment disparu en 20 ans.
On observait des pontes de tortues à l'ouest de la Guyane française de plus de 1000 individus chaque année, il y a 20-25 ans. Aujourd'hui, on en observe 10. Donc on est vraiment là sur un effondrement complet. Et la tortue lutte peut potentiellement disparaître de Guyane dans très peu de temps.
Comme souvent, les causes sont multiples. La surpêche illégale, l'érosion des plages, la hausse des températures. Trois causes et un responsable, l'homme. Que ce soit le braconnage en Afrique ou la déforestation, notamment en Amérique latine, l'activité humaine continue de détruire des écosystèmes. L'eau douce atteint une cote d'alerte, moins 83% de sa population globale.
C'est un indicateur de la pression que nous exerçons sur nos systèmes fluviaux. C'est une conséquence de la pollution, de l'irrigation utilisée pour cultiver, mais aussi des barrages construits dans les rivières qui bloquent la migration des espèces qui doivent remonter les fleuves pour se reproduire.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Reportage diffusé sur France 24 le 13 octobre 2022. Sébastien Treillère, vous étiez à Cali pour la COP 16. Donc cette COP environnement, c'est vrai que certains s'y perdent, entre la COP climat, la COP biodiversité. Et puis il y a aussi une COP 16 qui a eu lieu à Riyad sur la désertification. On voit que tous ces grands rendez-vous se multiplient. En même temps, il est nécessaire aussi qu'ils se multiplient parce qu'il y a de tels enjeux sur ces questions environnementales. Et en même temps, cette diplomatie montre là aussi un décalage, on peut dire, entre ambition affichée et action, engagement tenu.
On pourrait presque dire qu'il est encore plus grand sur les questions de biodiversité que sur les questions climatiques, parce que sur l'enjeu climatique, en fait, on sait bien maintenant que c'est un enjeu absolument géopolitique. La décarbonation de l'économie, c'est une redistribution des cartes des ressources économiques mondiales, et donc ça mobilise énormément d'intensité politique. Les chefs d'État sont présents, ils savent qu'ils négocient le dur. Sur la biodiversité, ils sont pas là, ils sont très peu là. On a eu la chance à la COP 16 en Colombie d'avoir la ministre Marina Silva, brésilienne, et Susana Haddad, la ministre colombienne, qui ont montré qu'il y avait un engagement de ces pays latino-américains-là, de ces gouvernements-là, actuellement, pour une économie qui soit la moins prédatrice possible de la biodiversité. Et dans ces pays latino-américains, avec leur histoire, c'est quelque chose d'absolument important, avec beaucoup d'accent sur la place qu'on doit donner aux populations autochtones dans la gouvernance mondiale. Donc il y a eu des avancées là-dessus qui ont été beaucoup poussées par ces gouvernements latino-américains. Mais en revanche, pour ce qui est de traiter les causes profondes de l'érosion de la biodiversité qui était mentionnée dans le reportage, qui sont liées à nos modes de consommation alimentaire et au système agroalimentaire, qui sont liées aussi à des questions d'artificialisation et d'infrastructure, en fait, on n'est pas en train on n'a pas trouvé les moyens de les prendre au sérieux. L'analogie qu'on peut faire, juste pour être complètement informatif, c'est qu'il y a eu en 2022, donc juste après ce reportage, en décembre 2022 à Montréal, la conclusion d'un cadre qui est un peu l'accord de Paris de la biodiversité, qui s'appelle le cadre de Kunming-Montréal pour la biodiversité, et qui se donne des objectifs à 2030 extrêmement ambitieux. Donc on sait où on doit aller. En revanche, les moyens d'action ne sont pas là. Et on va faire en 2026 le point sur ce sujet-là à la COP 17 de la biodiversité qui aura lieu en Arménie, si je ne me trompe pas, et où on va devoir se dire, est-ce qu'on a réussi à mettre en œuvre les politiques ? Est-ce qu'on comble l'un des écarts que mentionnait Audrey Garic entre l'ambition affichée du cadre mondial et ce que les États veulent faire, et ce qu'ils affichent, en dehors de ce qu'ils affichent vouloir faire, est-ce qu'ils le font vraiment ?
Mais alors, avant la COP 17 dont vous parlez, il y a un autre rendez-vous, je crois, pour essayer de reprendre les discussions de la COP 16, c'est ça, à Rome, du 25 au 27 février prochain ?
Oui, ça tombe exactement sur le fait que cette COP de la biodiversité a aussi achoppé sur la question du financement pour les pays du Sud. Ah oui. Et je pense que là, on était pris dans la grande division entre le Nord et le Sud, où les pays du Sud veulent absolument qu'on les aide à changer d'échelle dans les financements dont ils peuvent disposer pour un développement qui soit à la fois bon pour le climat et bon pour la biodiversité. Et leur gros problème, c'est en fait qu'ils sont à l'écart d'une mondialisation financière et commerciale aujourd'hui, et de plus en plus avec les guerres commerciales qu'on voit. Et je ne crois pas qu'on le résoudra dans ces enceintes spécialisées sur l'environnement. Il va falloir que les Brésiliens fassent un tour de passe-passe avec leur COP 30 qui va parler autant de biodiversité que de climat, puisque c'est aussi la forêt amazonienne, ça va se passer à Belém, mais c'est aussi la question des énergies fossiles qui mettent cette question environnementale en lien avec la réforme des institutions financières internationales. Sinon, on n'y arrivera pas.
En sachant que sous la présidence de Lula, ça va mieux que sous celle de Bolsonaro et qu'il y a du mieux, en tout cas, en matière de déforestation en Amazonie. Il faut quand même donner un peu d'espoir peut-être dans cette
annonce. Oui, on sait faire. Le gouvernement Lula a démontré dans son premier mandat, son deuxième mandat et dans son nouveau mandat actuellement, que quand on veut lutter contre la déforestation, on peut le faire.
Exactement. Valérie Masson-Delmotte sur cette question-là, parce que c'est vrai que ça vous tient à cœur aussi, ces questions au-delà du climat mais de l'environnement, et tout est corrélé puisque il y a quand même ces risques partout d'exacerber ou à la pauvreté, dégradation des écosystèmes, perte de biodiversité, tout est lié.
Oui, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans les valeurs à travers lesquelles passe ce dont on parle, Nous, on parle de climat, de biodiversité, puis les gens qui nous écoutent, ça passe par un filtre de valeurs. Et je me souviens d'une étude en psychologie environnementale qui montrait qu'il y a quatre grandes catégories de valeurs par lesquelles passe ce que l'on dit. Des valeurs liées à l'égoïsme, hein, l'intérêt personnel ou national, des valeurs liées à l'hédonisme, des valeurs liées à l'altruisme, et des valeurs liées à l'attachement à la nature. Et celles-ci sont les plus largement partagées indépendamment des convictions, on va dire, philosophiques, spirituelles, religieuses ou politiques. Et donc, ce côté d'attachement à la nature, c'est quelque chose qui peut nous rassembler. Et souvent, c'est mal compris à quel point, dans nos sociétés les plus avancées, les plus urbaines, finalement, on dépend aussi de l'état des écosystèmes, de leur bonne santé. Et on a parlé plutôt des enjeux terrestres, mais on a aussi les enjeux liés à l'état de l'océan, de la vie marine, avec la conférence des Nations Unies pour l'environnement qui aura lieu à Nice au mois de juin. Sachant que par rapport notamment aux objectifs de développement durable, aux enjeux pour le climat mais aussi pour la biodiversité, on a beaucoup de points de préoccupation du côté de l'océan, de l'exploitation de l'océan et de la vie marine. On parlait tout à l'heure des coraux, mais on peut aussi mentionner que dans un climat qui se réchauffe, on perd en fait déjà une partie du potentiel de pêche durable dans les régions tropicales. Et donc, c'est pas simplement les écosystèmes pour eux-mêmes, mais c'est aussi par rapport aux services qu'ils nous rendent. Ou bien la dégradation de la forêt en France, avec une mortalité d'arbres, avec les conditions plus chaudes et plus sèches, nous a fait perdre quasiment la moitié du puits de carbone lié à l'accroissement des forêts. Donc, on voit bien que les choses sont interconnectées et l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, l'IPBES, a rendu un rapport vraiment intéressant en décembre dernier, et qui porte sur ce qu'on appelle les nexus, c'est-à-dire les enjeux interconnectés. Et il souligne notamment les enjeux interconnectés liés dans un climat qui se réchauffe à l'eau, et l'eau elle est liée à l'énergie, elle est liée à l'agriculture, elle est liée à la santé, ou aux écosystèmes et à la biodiversité. Et ce que l'on voit en fait au niveau global dans cette évaluation, comme dans l'évaluation du groupe d'experts pour la Méditerranée exactement dans la même ligne, c'est qu'on aura le plus grand mal en fait à trouver des réponses adaptées, intelligentes, en prenant les choses en silo, et qu'on a besoin de vraiment aborder ces interconnexions, ces nexus, d'une manière vraiment, je dirais, radicalement différente des approches mises en œuvre jusqu'à présent.
Oui, c'est ce qui ressort effectivement aussi, je pensais au traité sur le plastique, qui a lui aussi du mal à aboutir, etc. On voit bien que tout est en silo, comme vous disiez, hein, Valérie Masson-Delmotte, et qu'il faut prendre tout ça de façon corrélée pour pouvoir s'en sortir. Audrey Garic, alors ce stade de l'émission, c'est vrai que Valérie Masson-Delmotte parlait de l'attachement à la nature, il y a aussi l'attachement à la musique, parce qu'on a quand même besoin de se faire du bien, hein, de temps en temps, et vous avez choisi de faire entendre Passenger, Let Her Go, superbe, hein, mais d'autres raisons peut-être, où vous l'écoutiez quand vous étiez en train de suivre certaines crises climatiques ou autres.
C'est vrai que je l'écoute beaucoup en travaillant, parce que j'aime beaucoup les musiques un peu pop, folk, un peu entre pop rock, folk, on va dire, ce genre de rythmes musicaux, et voilà, je trouve que c'est très doux, à la fois doux et joyeux, et on a beaucoup besoin de tout ça en ce moment.
France Culture, De cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Staring at the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe
maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark. Same old empty feeling in your heart. Cause love comes slow and it goes so fast. Will you see her when you fall asleep? But never to touch and never to keep. Cause you loved her too much and you dive too deep. Where you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
C'était Passenger, Let Her Go, le choix musical d'Audrey Garic. Et nous poursuivons l'émission De Cause à Effet, le magazine de l'environnement sur France Culture. Nous sommes en direct et dans le cadre de notre partenariat avec le service Planète Sciences du journal Le Monde. Eh bien, nous regardons et nous analysons cette année 2025, une année cruciale pour le climat et la planète, bilan et perspective, avec nos trois invités. Audrey Garic, journaliste du service Planète Sciences du journal Le Monde, Valérie Massot-Delmotte, directrice de recherche au CEA et climatologue au Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement à Paris-Saclay, et Sébastien Trière, directeur général de l'IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales. Alors, on aura compris que les COP restent le lieu pour négocier quand même entre États, même si tout n'est pas forcément à la hauteur. Justement, peut-être que vous pouvez partager avec nous les solutions qui sembleraient être intéressantes pour vous à mettre en œuvre pour surmonter ces crises, faire de l'année 2025 et de ces grandes rencontres au sommet ou autre, une année victorieuse qui a envie de commencer peut-être. Réformer les COP, est-ce que c'est envisageable d'ailleurs de faire autrement ? Audrey Garic.
Oui, il y a beaucoup de discussions sur la réforme des COP. C'est un sujet qui revient de plus en plus puisqu'on, il y a, finalement, maintenant, année après année, on est quand même globalement déçu des résultats de chaque COP, que ce soit sur le climat, mais aussi, on le disait, sur la biodiversité, sur la désertification.
Et on a oublié de dire qu'il y avait énormément de lobbyistes.
Voilà.
1700 à bas coût, je crois.
En tout, des lobbyistes des énergies fossiles, donc des gens qui étaient là pour défendre les intérêts du charbon, du pétrole et du gaz dans une conférence où on essaie justement de lutter contre ces énergies. Donc ça paraît complètement contradictoire et pourtant c'est la réalité. Ces COP, des fois, vu de l'extérieur, elles paraissent comme être des bulles déconnectées de la réalité, des grandes foires où on vient pour défendre ses intérêts économiques et pas forcément pour faire avancer l'agenda climatique. Donc il y avait des propositions de revoir peut-être les attributions de présidence de COP, que ce soit plus attribué à des pays pétroliers, mais bon, ça pose des questions parce que il n'y a pas que les Émirats Arabes Unis ou l'Azerbaïdjan qui sont des pays pétroliers.
Il faut tourner sur les 5 continents, c'est ça ? Je crois qu'il y a des... Enfin, il faut à chaque fois que les aires géographiques soient représentées.
C'est ça. Aujourd'hui, c'est le système, en tout cas, depuis 1992, c'est effectivement tous les... Il y a 5 continents au sens de l'ONU, et donc à chaque fois, c'est la COP, elle revient soit... Là, c'était l'Europe de l'Est, mais ça peut être aussi... à l'Europe de l'Ouest et aux autres pays, ou à l'Asie, etc. Donc il y a des questions sur comment est-ce qu'on pourrait donner, attribuer les présidences de COP à des pays qui sont plus investis dans la transition et qui adhèrent vraiment aux valeurs de l'accord de Paris, limiter la présence des lobbyistes des énergies fossiles, ou en faire des événements plus petits, plus proches de tous les continents, de tous les pays. Mais à chaque fois, il y a des... c'est vrai que c'est compliqué de mener ces réformes parce que il faut souvent un consensus de tous les pays, des 197 pays ou 198 parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques pour arriver à faire ces changements. Et ben, le problème, c'est que le consensus, ben, on le voit, il est très difficile à atteindre et on a toujours des blocages de certains pays, notamment des pays pétroliers comme l'Arabie Saoudite ou le Qatar ou le Koweït ou des pays comme ça qui ne veulent pas forcément des réformes qui iraient dans le sens d'une accélération de l'action climatique. Donc la réforme des COP, je ne sais pas si ce n'est pas un vœu pieux finalement. Il faut peut-être moins en attendre aussi, parce que ce n'est pas forcément dans ces cénacles que tout se joue. En fait, les COP, comme le disent beaucoup d'experts, c'est un miroir de l'action climatique, ce sont des caisses de résonance. C'est pas, en fait, on ne peut pas aller plus loin que ce qui est fait déjà à l'échelle nationale. Donc c'est peut-être à l'échelle nationale que les États doivent accélérer, essayer d'embarquer tout le monde dans la transition écologique, et dans d'autres espaces au niveau du FMI ou l'Organisation mondiale du commerce, etc., où on peut accélérer sur l'action climatique qui touche tous les échanges commerciaux, géopolitiques, et donc ça peut se jouer dans d'autres arènes, et voire des arènes plus locales, plus régionales.
Sébastien Treyer, réformer, pérenniser, faire autrement?
Pour moi, en fait, les COP, elles sont indispensables parce que c'est le lieu universel où tous les pays sont représentés. Et notamment, les pays les plus vulnérables ont une vraie voix au chapitre. Et donc, elles ont cette vertu. Elles n'ont pas la vertu de l'efficacité, mais elles ont cette vertu-là. Et elles ont aussi la vertu, les COP climat, même si elles viennent un peu trop souvent, de rythmer l'obligation de rendre des comptes, d'être présent dans la médiatisation. Et donc, le rythme politique qu'elles impriment est quand même aussi quelque chose dont moi, je préférerais ne pas me passer. En revanche, je pense que dans l'année qui vient... c'est les pays du G20 qui ont deux responsabilités. Une première responsabilité, de se mettre d'accord sur la question des financements dans les pays du Sud. Et ça dépasse à vrai dire la question du climat. C'est la question de l'accès à la finance pour des pays qui aujourd'hui sont en risque de complètement décrocher par rapport aux trajectoires et notamment à la course aux politiques industrielles entre les États-Unis, la Chine, l'Europe, etc. Là-dessus, le G20 va être sud-africain cette année. Et l'Afrique du Sud, avec l'Union africaine qui est maintenant dans le G20, a une vraie responsabilité, elle a aussi les moyens, elle veut parler du coût du capital, elle veut parler de la dette. Je pense qu'on aurait vraiment besoin, pour les opinions publiques et pour les pays du Sud, mais j'ai peur d'être un petit peu trop utopique, d'avoir deux signaux très forts. Un signal sur la taxation internationale. Les Brésiliens ont mis sur la table l'idée de la taxation des ultra-riches. Ça a quand même été validé, par exemple, par Bruno Le Maire, ministre des Finances français. Il y a plein de pays qui soutiennent ça.
Et ultra-riches, c'est ultra-riches quand même. Hein, parce que ça inquiète souvent.
Une petite poignée d'individus ultra-riches qui, d'ailleurs, demandent à être taxés, comme Warren Buffett. Donc, on n'est pas en train non plus d'imaginer des choses. Je crois que le président Macron, hier, devant les ambassadeurs, disait « c'est pas un truc de crypto marxiste ». Et donc, on est dans quelque chose qui sont imaginables, mais par contre, le délai politique ne me semble pas rapproché. Et puis, il serait aussi très important de pouvoir montrer aux pays du Sud qu'on change la gouvernance des institutions comme la Banque mondiale et le FMI en leur donnant plus de place. C'est des victoires symboliques qui déjà vont être difficiles, mais ça donnerait un peu l'impression qu'on prend au sérieux leurs demandes. Ça, c'est un premier point qui doit se discuter au G20. Deuxième point qui doit se discuter au G20, c'est celui qui est, en fait, au G20, comment est-ce que les pays producteurs de pétrole et les pays consommateurs de pétrole pourraient, parce que là encore, je ne suis pas très optimiste sur le fait que ça arrive cette année, se mettre d'accord sur la sortie des fossiles orderly, organisé, comme c'est dit dans la déclaration de la COP28 de Dubaï. Et en fait, j'aimerais bien, en tout cas, que dans le G20, on n'ait pas une opposition entre le G7 et les BRICS, mais plutôt une opposition où les pays consommateurs de pétrole, comme l'Union européenne, par exemple, se mettent d'accord avec la Chine sur faire un cartel des consommateurs contre le cartel des producteurs. Enfin, qu'on ait des idées, quelque chose qui bouge un peu de ce côté-là. Et j'aurais vraiment, pour moi, il faudrait que les pays de l'Union européenne arrivent à être innovants pour proposer à des pays du Sud consommateurs de pétrole qui soient pas en train de... Ou alors qui disent aux pays du Sud producteurs de pétrole, on va arrêter d'acheter le pétrole saoudien, on va vous acheter votre pétrole à vous, le Ghana, le Sénégal, parce qu'au moins, comme ça... Et donc, c'est ces lignes-là qui devraient bouger. Et c'est pas dans la Convention des Nations Unies sur le changement climatique que ça doit bouger uniquement.
En sachant que l'Europe est plutôt fragile en ce moment, avec la France et l'Allemagne, avec des turbulences quand même, et il n'y a plus vraiment de leader, quoi.
Tout à fait.
Oui, Audrey Garic et ensuite Valérie Masson-Delmotte. Allez-y.
Oui, pour rebondir sur ce qu'il disait Sébastien Treyer sur les sources de financement innovantes, il y en a beaucoup sur lesquelles on travaille. Et au-delà des taxes sur les ultra-riches, c'est vrai qu'il y a forcément la taxe sur les super-profits dans des énergies fossiles, quoi, sous les compagnies pétrolières qui ont fait des profits astronomiques et qui paraissent très décalés avec l'urgence climatique sur les dernières années, notamment depuis la guerre en Ukraine et la crise énergétique. Il y a des propositions qui sont de plus en plus importantes et qui sont relayées essayé par Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, de taxer ces super profits et aussi de mettre en place peut-être d'autres taxes sur le transport aérien, sur le transport maritime, qui sont moins taxés que d'autres personnes, et que ça aussi contribue en fait à l'incompréhension de certaines opinions publiques sur la transition écologique. Donc on pourrait accélérer tout ça. C'est des sources de financement qui sont là et qui pourraient pallier le problème de financement des pays, de manque de financement des pays développés, pour trouver de la trésorerie pour aider les pays en développement, puisque le financement, c'est vraiment la clé, on le voit, de tout le manque d'action, que ce soit pour le climat, la biodiversité, le traité plastique ou tous les enjeux environnementaux.
Donc comment faire autrement ? Encore faut-il avoir des volontés politiques, hein, pour aussi rassurer ces opinions publiques qui sont aussi importantes, hein, et qui montrent une moindre volonté de prendre leur part. Avant de vous donner la parole, hein, Valérie Masson-Delmotte, parce que dans la façon de faire autrement, vous avez d'ailleurs eu l'occasion, hein, de tenter de former des ministres, un gouvernement, c'était le 31 août 2022. Je propose d'écouter quand même, en petit rappel, un extrait des vœux du président Macron en date du 31 décembre 2022.
Qui aurait imaginé à cet instant que, pensant sortir avec beaucoup de difficultés d'une épidémie planétaire, nous aurions à affronter en quelques semaines d'inimaginables défis. La guerre revenue sur le sol européen, après l'agression russe, jetant son dévolu sur l'Ukraine et sa démocratie. Des dizaines, peut-être des centaines de milliers de morts, des millions de réfugiés, une effroyable crise énergétique, une crise alimentaire menaçante, l'invocation des pires menaces, y compris nucléaires. Qui aurait pu prédire la vague d'inflation ainsi déclenchée, ou la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays. Pourtant, au fil de ces saisons de danger, ce qui est demeuré constant, une fois encore cette année, est notre capacité collective à relever ensemble ces défis. C'est par notre travail et notre engagement que nous bâtirons aussi une nation productive et écologique. Parce que la transition écologique est une bataille que nous devons gagner. Il nous faut la mener avec résolution et méthode. La planification écologique sera l'instrument de ce dépassement historique pour baisser nos émissions de CO2 et sauver notre biodiversité.
Valérie Masson-Delmotte, je me tourne vers vous parce que c'est un univers que vous avez un petit peu investi en tentant la formation et l'information. Je crois que vous aviez aussi été approchée, hein, pour être ministre, mais vous avez refusé catégoriquement, hein, de rentrer dans cet univers. Quel regard portez-vous sur quand même ces engagements politiques? On en a besoin et on sent qu'il y a aussi il y a un manque de confiance aussi d'une opinion publique qui ne croit plus beaucoup en certains points aussi et certaines actions politiques et publiques. Voilà, donnez-nous votre sentiment.
En fait, en vous écoutant et en écoutant cet extrait, mes réflexions étaient que finalement, le fait de parler de changement climatique comme si c'était une crise, ça peut conduire à vouloir agir ponctuellement sur ce sujet-là, puis après passer à une autre crise. Et on voit bien qu'on n'est pas sur cet enjeu-là, on est sur des enjeux de transformation profonde à mener dans la durée, qui demandent de nouvelles compétences, qui demandent aussi de créer les conditions d'un débat démocratique, d'un engagement, d'une vision partagée dans la durée. Et 2025, c'est aussi une année importante sur ces aspects-là, la programmation pluriannuelle de l'énergie, la révision de la stratégie bas carbone en France, la mise en œuvre du plan national d'adaptation au changement climatique dans sa nouvelle version, la révision des engagements européens dans le cadre de la COP30, mais aussi préparer finalement quelle est la vision de la trajectoire de décarbonation en Europe à horizon 2030-2040, la sortie du pétrole et du gaz, comme vous l'aviez dit. Et ce qui est frappant, c'est le manque d'espace de délibération démocratique sur ces sujets. On en parle peu au moment des élections, on en parle peu au Parlement, qui gère crise après crise en ce moment. Et donc, vous parliez tout à l'heure de comment est-ce qu'on peut aussi relancer finalement la coopération.
Tout à fait.
Donc, il y a la diplomatie entre les États et puis les COP avec leur codification, le côté plus petit dénominateur commun. Il y a les coalitions des acteurs les plus engagés. Il y a des émissions de gaz à effet de serre qui baissent dans 22 pays depuis plus de 10 ans, découplées de l'activité économique. Donc on sait ce qui fonctionne, on sait ce qui fonctionne bien, on sait ce qu'on peut mettre en œuvre. Il y a une place pour la diplomatie scientifique. Nous travaillons avec les scientifiques des différents pays du monde. Je trouve que c'est peut-être pas assez mobilisé, en fait, hein, pour arriver à faire émerger aussi d'autres manières d'articuler les faits scientifiques et leur place dans ces délibérations. Et les COP qui ont bien fonctionné, pour moi, c'était les COP où les négociateurs ont donné une place importante aux faits scientifiques comme un fondement, finalement, de ces échanges. Alors, ce n'était pas nécessairement le cas à la COP29, mais c'était par exemple le cas à Glasgow à la COP26 qui avait relancé à ce moment-là l'action pour le climat. Et puis, quelle place pour une forme de diplomatie citoyenne, de citoyen à citoyen ? Le rôle, par exemple, des villes qui sont en fait en première ligne par rapport aux risques climatiques, qui ont joué un rôle sous le premier gouvernement Trump pour maintenir une dynamique de l'action pour le climat aux États-Unis. Voilà, donc vous posiez ces questions en fait, hein, de comment relancer finalement cette volonté d'agir. Et je pense que cette dynamique scientifique, de coopération citoyenne, de coopération urbaine, elle peut jouer un rôle important.
Audrey Garic et Sébastien Treillère, peut-être dans les dernières minutes de l'émission, de réagir sur cette façon, effectivement, de trouver une autre, enfin, ou d'autres places. Valérie Masson-Delmotte rappelle quand même la place importante et le rôle des scientifiques, hein, des spécialistes, dans ces grands moments, ces grandes rencontres, mais aussi la place des citoyens. Finalement, ça pose la question de quel est aussi peut-être votre rôle à chacun, hein, scientifique, spécialiste, journaliste et plus largement citoyen. On peut avoir plusieurs casquettes, hein.
Oui, comme disait Valérie Malston-Delmotte, je pense que c'est important de montrer qu'il existe des solutions, en fait, parce que c'est vrai qu'on est souvent dans le constat de la gravité de la crise climatique ou de l'extinction de la biodiversité, et on peut être complètement découragé par rapport à cette montagne à gravir, et donc montrer qu'on peut agir, que des gens agissent, pour essayer de susciter l'exemple. Et je me dis aussi que ce qui était important, c'était aussi de trouver parfois un nouveau messager, de nouveaux émetteurs, parce qu'on a vu que, par exemple, sur le climato-scepticisme qui progresse, il y a un rejet non pas forcément de la parole scientifique, mais une défiance vis-à-vis de l'écologie politique qui est vue comme trop radicale, contradictoire, donc il faut essayer de peut-être de trouver de nouvelles personnes qui peuvent incarner aussi l'écologie,
oui, autrement que vu comme punitive, quoi.
Voilà, que pardon, c'est ce que cherchait Merci, punitive. Donc peut-être d'en parler autrement et de concevoir des politiques climatiques différentes, comme l'ont fait par exemple les États-Unis ou le Royaume-Uni, en mettant en valeur le fait de mettre en valeur l'indépendance énergétique ou l'énergie peu chère. Et pas seulement le climat qui n'est pas forcément parlant. Donc le rôle aussi en tant que journaliste, moi comme je le vois, c'est de parler du constat, mais aussi d'essayer de montrer les blocages et les solutions dans la transition écologique.
Sébastien Treillère, pardon, vous avez une minute pour réagir. Et là, on était sur l'écologie politique.
Je pense qu'il y a une question majeure qui est la dimension sociale de la transition, les effets inégaux de la transition, mais aussi, on va voir de plus en plus les effets très inégaux d'un scénario où on agit pas. C'est-à-dire que les pays les plus vulnérables, etc., vont être... Et donc, il faut absolument qu'on arrive, je dirige un think tank qui travaille sur essayer de donner amener les faits scientifiques dans le débat politique, et il faut qu'on arrive à structurer le débat politique pour que cette question de la justice sociale ne soit pas manipulée contre la nécessité de la transition, mais que donne à voir à quel point ne pas agir serait encore plus inégal socialement. Et c'est là où on pourra faire émerger des nouvelles formes de récits et de discours politiques. Mais c'est absolument important qu'on travaille ça.
Une justice sociale dont tous les citoyens ont besoin, y compris dans les pays du Nord, il faut aussi le rappeler. Merci à tous les trois. Merci Valérie Masson-Delmotte, à conseiller votre dernier livre, Face au changement climatique, un livre paru au CNRS Éditions dans la collection Les grandes voies de la recherche. Sébastien Treillère, on renvoie bien sûr sur les décryptages proposés sur le site de l'IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales que vous dirigez. Audrey Garic, à lire vos articles dont le dernier, ou l'avant-dernier, hein, s'intitule L'année 2025 sera cruciale pour le climat dans un monde plus que jamais incertain et turbulent. Tout est à retrouver sur notre site franceculture.fr, rubrique de cause à effet, ainsi que l'ensemble des informations et références relatives à cette émission, et puis bien d'autres podcasts sur le sujet, bien sûr.